France Musique. France Musique. Bienvenue sur France Musique, tout de suite et jusqu'à 9h, Musique Matin par Clément Rochefort. Très bonne journée.
Bonjour à tous, très heureux de vous accompagner ce matin sur France Musique. Ça y est, le mois de juillet est lancé. Les vacances ont vraiment commencé avec leur lot d'activités. Peut-être certains d'entre vous sont des vélocipédistes forcenés, amateurs de pédales et de balades à deux roues. C'est le cas de notre invité du jour, l'altiste baroque Samuel Angebard, qui nous emmènera à 8h30 dans sa tournée musicale à vélo dans les Hauts-de-France avec sa compagnie Acte 6. Mais d'ici là, à 7h40, le Tour de France des festivals nous emmènera à Sens, au festival Les Sensationnels du violoncelliste Victor-Julien Laferrière. À 7h50, le jeu de l'été a gagné aujourd'hui une nouvelle version des 4 saisons de Vivaldi avec Renaud Capuçon. À 8h, le journal. À 8h10, l'actu du jour, un reportage de Susanna Kubik, les enfants musiciens sont-ils meilleurs à l'école? Et puis à 8h25, le meilleur de Maxi Classique. Vous avez le programme, nous sommes le mardi 2 juillet, on est ensemble jusqu'à 9h, préparez vos bicyclettes en route.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
La La bicyclette, célèbre chanson de Francis Lai et de Pierre Barou pour se mettre en jambe ce matin avec la voix d'Yves Montand. 7h34, tous les matins à 11h45, France Musique vous proposera cet été de découvrir ou de redécouvrir ces séries de podcasts thématiques. Cette semaine, Suzanne Gervais nous fait trembler avec ses sorcières, Maléfice en musique, une galerie de portraits des sorcières de l'histoire de la musique comme Méduse, Circe, c'est Morgane, Alcina, Mélusine, Médée, Hécate ou encore Elphaba, des sorcières racontées par des voix de la comédie française. C'est à redécouvrir ou à découvrir tous les matins à 11h45 ou à podcaster pour accompagner vos balades estivales.
Come on, come on.
des multiples sorcières dont parle cette semaine Suzanne Gervais dans sa série Sorcières, Maléfices en musique. C'est Médée, la Médée de Charpentier, opéra extraordinaire. C'était au troisième acte, le prélude, la scène de Médée, Noire fille du Styx, et puis le premier air pour les démons avec la voix de Véronique Gens dans le rôle titre, Fabien Hyon dans le rôle de la jalousie et Adrien Fournaison dans le rôle de la vengeance. Cet extrait d'un coffret qui est sorti cette saison, c'est la nouvelle version de la Médée de Charpentier enregistrée par le concert spirituel d'Hervé Niquet. Il est 7h40.
France Musique, le 7h39 de Clément Rochefort, Musique Matin.
Et à 7h40, on part normalement à bicyclette, justement, pour le Tour de France des festivals. On devait être en direct de Sens ce matin pour évoquer le festival Les Sensationnels, dirigé par le violoncelliste et chef d'orchestre Victor-Julien Laferrière. Malheureusement, nous n'arrivons pas à le joindre, Victor-Julien. Il est directeur artistique de ce festival depuis quelques années maintenant, implanté à Sens, qui a commencé, le festival a commencé le 28 juin pour son édition 2024. Et se poursuivra jusqu'au 7 juillet. C'est un festival engagé aussi avec 17 concerts d'orchestre, de musique de chambre donnés par des artistes de tout premier plan. Il y a aussi des rencontres pédagogiques qui s'y déroulent. Je peux vous donner quelques noms de musiciens qui font l'édition 2024. Par exemple, ce soir, on pourra retrouver Victor-Julien Laferrière. J'espère qu'il aura rouvert son téléphone d'ici le concert de ce soir. Il sera en duo avec le pianiste Jonathan Fournel. C'est un jeune pianiste, c'est aussi un festival Les Sensationnels qui fait la place aux jeunes talents. Ils joueront des œuvres de Brahms. Et puis jeudi 4 juillet à la Basilique de Saint-Savinien, trio pour violon, violoncelle et piano avec Pierre Fouchéneret au violon, Victor-Julien Laferrière au violoncelle et Théo Fouchéneret au piano, là aussi un bel ensemble. Et puis le 7 juillet au Théâtre Municipal de Sens, la violoniste Lia Petrova qui viendra jouer un concerto pour violon en ré majeur et la 8e symphonie de Beethoven avec l'orchestre Consuelo, qui est l'orchestre qu'a fondé et que dirige Victor-Julien Laferrière. Alors je vous propose de retrouver Victor-Julien Laferrière à la tête de son orchestre Consuelo dans le rondo de la première sérénade en ré majeur opus 11 de Johannes Brahms. L'orchestre Consuelo, dirigé par Victor-Julien Laferrière, dans le rondo final de la première sérénade de Brahms. Je vous parlais de son festival Les Sensationnels et je vous disais qu'il y aurait aussi, parmi les musiciens, le pianiste Théo Fouchéneret, que j'aime énormément et qui a enregistré la musique de Schumann récemment avec le oboïste Philibert Perrine. Les voici tous les deux dans la première des trois romances opus 94 de Schumann.
Thank you.
Ah, vous l'avez entendu, c'est un hautbois très métallique sur France Musique ce matin. Bah non, évidemment, ça n'était pas du tout l'une des romances opus 94 qu'on vient d'entendre, mais c'était du Schumann. C'était en l'occurrence la fin de l'Andante, variation en si bémol majeur pour deux violoncelles, corps et deux pianos, avec Caroline Sipniewski et Sarah Fouchenray au violoncelle, Félix Roth au corps, Hortense Cartier-Bresson et Théo Fouchenray au piano. 7h53, il est temps de jouer. A gagné ce matin sur France Musique le disque Vivaldi, Chevalier de Saint-Georges du violoniste Renaud Capuçon avec l'orchestre de chambre de Lausanne. C'est un disque erato qui réunit les célèbres concertos pour violon des quatre saisons de Vivaldi et deux concertos moins connus du Chevalier de Saint-Georges, violoniste virtuose et compositeur du XVIIIe siècle, né dans une famille d'esclaves probablement en Guadeloupe, élevé dans une famille d'adoption à Paris avant de devenir musicien du Palais Royal, entre autres. Pour gagner comme tous les matins, il vous suffit de répondre correctement à la question que je vais vous poser. Vous nous écrivez à musiquematin en un seul mot @radiofrance.com. Vous nous donnez la bonne réponse et puis vous n'oubliez pas surtout d'indiquer vos coordonnées complètes pour qu'on puisse vous envoyer vos petits cadeaux si vous êtes parmi les gagnants du tirage au sort. Voici la question. Saint-Georges, le compositeur, donc, avait une autre passion en dehors de la musique. Laquelle? Était-il danseur, escrimeur ou architecte? Que pratiquait le Chevalier de Saint-Georges en dehors de la musique? La danse, l'escrime ou l'architecture? Vous avez jusqu'à 7h50 pour participer. 8h50 pour participer. Renaud Capuçon avec son orchestre de chambre de Lausanne. C'était un extrait de l'été de Vivaldi. Cet extrait du coffret qui est à gagner ce matin. Vous pouvez continuer à nous écrire. Et c'est un coffret qu'on vous fait gagner en partenariat avec le Festival International de Colmar où Renaud Capuçon sera le 7 juillet avec justement son orchestre de chambre de Lausanne pour jouer entre autres le 3e concerto brandebourgeois de Bach et la 2e symphonie de Beethoven. Un extrait des danses norvégiennes de Grieg, c'était l'orchestre symphonique de l'État d'Estonie sous la direction de Paavo Järvi.
Ce jeudi, dans le concert du soir, le chef d'orchestre Alain Altinoglu dirige l'orchestre symphonique de la radio de Francfort pour un programme romantique. Tout d'abord, l'ouverture dans la nature de Dvorak, le formidable concerto pour piano de Grieg avec le pianiste Jan Lischietzky en soliste. Et enfin, la deuxième symphonie de Johannes Brahms. C'est ce jeudi à 20h sur France Musique et sur l'application Radio France.
France Musique, c'est l'été.
Merci d'être avec nous ce matin. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux à l'instant. Bienvenue sur France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure du journal avec Marie-Aimée Copleutre. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. C'est ce soir, 18h, que l'on connaîtra les candidats qui vont retirer leur candidature pour les législatives. À ce stade, sur 300 triangulaires, un peu plus de 150 candidats se sont désistés. En majorité de gauche, 120 du nouveau Front Populaire au profit de la majorité. C'est le cas par exemple dans la 6e circonscription du Calvados en Normandie, où Noé Gauchard se désiste au profil d'Elisabeth Borne. Arrivé deuxième juste après le Rassemblement National. Côté majorité, une cinquantaine ont décidé de retirer leur candidature, dont trois ministres femmes, face à des candidats socialistes et écologistes du nouveau Front Populaire. Désistement pour faire barrage à l'extrême droite. Jordan Bardella, lui, a appelé hier ses électeurs à se mobiliser pour avoir une majorité absolue, soit 289 députés. Le parti a déjà 39 députés élus au premier tour et arrive en tête dans plus de 250 circonscriptions. La très probable victoire de l'extrême droite inquiète une communauté. Les scientifiques, ils se sont mobilisés toute la semaine dernière en écrivant, signant des tribunes. Pour eux, Rassemblement national égale menace pour le monde universitaire. Cécile de Kervas-Douy.
La menace est immédiate, réelle et inédite, écrivent les responsables de France Université et des différentes conférences des directeurs des grandes écoles françaises. En cause, ce concept flou de préférence nationale porté par l'extrême droite, alors que dans le milieu de la recherche, comme le montrent les statistiques du CNRS, plus d'un tiers des lauréats au concours des postes de chercheurs ne sont pas nés en France. En cause également le climato-rassurisme de l'extrême droite, qui fait semblant de faire croire que le dérèglement climatique n'est pas de grande ampleur. Emmanuel Duflot est le président de la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs.
Les directeurs des écoles d'ingénieurs publics sont directement nommés par le ministre. Et donc, est-ce qu'il ne faudra pas abandonner toute la recherche sur le climat pour se concentrer à des recherches très appliquées, avec des intérêts industriels à fort rendement, et donc rediriger toutes les recherches? Par exemple, on n'est pas loin d'être devenu en France les champions de l'éolien en mer. Est-ce que demain, on a toujours des financements qui permettront de se placer premier au niveau international sur ces sujets-là?
Impossible de le savoir, puisqu'il n'y a rien dans le programme du RN sur le sujet de la recherche. Il y a une ligne sur la défense du pouvoir d'achat des étudiants, mais dans les faits, les députés RN viennent de voter contre la revalorisation des bourses étudiantes. En revanche, sur la question de l'immigration, leur vote est sans détour. De quoi inquiéter le sociologue Milan Boucher-Valat, spécialiste de la famille et des violences conjugales à l'INED, l'Institut national d'études démographiques.
Ce n'est pas des questions complètement nouvelles, puisque sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu des remises en cause des travaux de l'INED, notamment sur l'immigration, et on a vu ce que ça a donné dans d'autres pays, comme par exemple en Hongrie, où l'Académie des sciences a vu son indépendance remise en cause pour satisfaire l'idéologie du gouvernement. Donc on peut se poser de grandes questions sur la possibilité de continuer à faire des recherches indépendantes et de fournir des statistiques objectives qui éclairent le débat public sur l'immigration typiquement, ou sur les violences contre les femmes, sur les minorités de genre.
D'où la réunion de crise prévue entre chercheurs cet après-midi à l'INED.
Aux États-Unis, Donald Trump n'ira pas en procès pour l'assaut du Capitole, du moins pas tout de suite. La Cour suprême, composée de 9 juges à majorité conservatrice, renvoie la décision à un tribunal fédéral. Trump évite ainsi un procès avant la présidentielle de novembre. Il sera jugé après. L'armée israélienne a ordonné hier soir une nouvelle évacuation de plusieurs secteurs du sud de la bande de Gaza. Dimanche, 4 miliciens islamistes ont été tués dans des attaques israéliennes. 18 soldats israéliens Israéliens ont été blessés. Au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, de fortes inquiétudes sur une guerre avec le Hezbollah. L'arsenal du Hezbollah est estimé à 150 000 roquettes et missiles, certaines de moyenne portée, capables d'atteindre tout le territoire israélien. Les 100 000 et quelques habitants des îles Grenadines dans la mer des Caraïbes sont coupés du monde après le passage de l'ouragan Beryl qui menace les Caraïbes depuis plus de 48 heures. Plus d'électricité sur ces îles, des pluies torrentielles, des vents jusqu'à 240 000 km/h ont été enregistrés. L'ouragan vient d'être relevé en catégorie 5. Hier, en Martinique également, 10 000 foyers ont également été privés d'électricité. La météo de la journée, un temps gris et des nuages dans toute la France aujourd'hui, excepté au sud-est. Des températures comprises entre 15 et 22 degrés, de la pluie dans le quart nord-est. La Haute-Marne est placée en vigilance orange au cru. Il est 8h04. La suite de la matinale avec vous, Clément Rochefort.
Merci, Marie-Aimée Copleutre. Bon, c'est pas un jour à faire du vélo.
Non.
C'est dommage parce qu'on reçoit à 8h30 l'altiste Samuel Angebar qui va nous parler de sa tournée musicale à vélo dans les Hauts-de-France avec sa compagnie Acte 6. Mais je crois que le temps va se lever d'ici samedi, d'ici ce week-end. Et puis à 8h10, le reportage de Susanna Kubik et les enfants musiciens sont-ils meilleurs à l'école? À 8h25, Maxi Classique, le meilleur des chroniques de Max de Zolm. Et enfin, avis à tous les amateurs de jazz. Nous serons bien sûr comme chaque été à Marciac avec France Musique. Mais vous pouvez déjà vous régaler tout au long du mois de juillet au Festival de Jazz de Marseille. Jazz des 5 continents, c'est un tour du monde des meilleurs musiciens en forme d'Olympiade jusqu'au 13 juillet dans différents endroits de la cité phocéenne. Parmi les invités 2024, Kyle Eastwood, dont on parlait hier, Balaké Sissoko, Vincent Segal, Émile Parisien, Vincent Perani, Kessia Jones, Marion Rampal, Roberto Fonseca ou encore les deux Grégory, Grégory Porter et Grégory Priva. Toutes les infos sont sur le site du festival www.marseillejazz.com. Thank you. Oscar, please stop. C'est un titre de Roberto Fonseca, extrait de son album A Grand Diversion, avec Roberto Fonseca au piano, Andrés Coayo percussion cubaine et Inor Sotolongo à la percussion. Roberto Fonseca qu'on pourra donc retrouver dans le cadre du festival à Marseille Jazz des 5 continents. Merci d'être avec nous sur France Musique. Il est 8h10.
France Musique. Le 7h39 de Clément Rochefort, Musique Matin.
Vous êtes peut-être en train de faire vos valises et le tuba du Benjamin de la famille ne rentre pas. Vous feriez mieux de lui trouver une place parce que, figurez-vous, les enfants musiciens seraient meilleurs à l'école. C'est en tout cas ce qu'affirment les neuroscientifiques qui se sont réunis en mai dernier au Collège de France pour un colloque sur le rôle de la musique dans les apprentissages scolaires. Susanna Kubik a mené l'enquête.
Les enseignants savent que les élèves qui font de la musique sont meilleurs à l'école. Nous le savons déjà.
Vous entendez la voix de Nina Kraus, professeure de neurobiologie à l'Université Northwestern de Chicago. Elle a comparé l'enregistrement du cerveau d'un enfant musicien avec celui d'un enfant non musicien à l'écoute de la musique.
Écoutez la réponse du cerveau d'un enfant qui prend des cours de musique à l'école. Maintenant, écoutez le cerveau de son camarade qui n'a pas suivi des cours d'éducation musicale. Nous avons constaté qu'avec la pratique musicale, la réponse de leur cerveau aux paramètres du son est devenue plus précise, plus fine.
Et si la musique a un tel impact sur le cerveau, c'est que littéralement, elle nous prend la tête, explique le neuropsychologue Emmanuel Bigand. Quand on joue d'un instrument, tout le cerveau est mis à contribution. Il y a la lecture de la partition, le geste musical, l'écoute de son jeu et du jeu des autres, la planification et l'anticipation de la suite du morceau. Et tout cela nous donne beaucoup de plaisir.
Tous les neurones qui sont impliqués par la musique se synchronisent exactement comme les musiciens d'un orchestre. C'est pour ça qu'on parle de symphonie neuronale. Un orchestre qui a beaucoup de répétitions, ça va devenir un bon orchestre. La musique fait exactement le même effet sur votre cerveau. Si elle donne l'occasion à tous ces neurones de synchroniser, elle va contribuer à améliorer des schémas de communication entre les deux hémisphères. Donc à faire un bon cerveau, c'est-à-dire un cerveau qui va développer toutes ses potentialités.
Ces nouvelles routes de communication développées pour et par la musique vont être ensuite utiles aussi pour le langage, la lecture, les maths, la mémoire ou la concentration. Emmanuel Bigand.
Il y a des liens. Par exemple, entre les capacités rythmiques des enfants et la capacité d'apprentissage de la lecture. Vous avez, quand vous développez ce sens rythmique, une structure dans le tronc cérébral qui piste les signaux auditifs. Plus elle est entraînée, plus elle piste avec précision les signaux auditifs. Quand vous écoutez quelqu'un parler, ce tronc cérébral va détecter toutes les frontières qu'il y a entre les mots et même entre les différents phonèmes des mots. D'entendre le R dans « batterie », c'est pas si simple que ça pour un enfant. S'il a été stimulé, il va entendre très facilement « Ah, il y a un R d'entrée !» Mais vous vous rendez compte l'avantage que cet enfant a pour apprendre la lecture.
Mais la musique ne bénéficie pas seulement au développement cognitif de l'enfant. Elle est importante pour son développement socio-affectif aussi, souligne Emmanuel Bigand. Les enfants qui font de la musique ont plus d'empathie envers les autres, ils sont plus collaborateurs, ils ont cet esprit solaire dont on a besoin dans les collectivités, précise le chercheur. Une raison de plus pour passer les vacances en musique.
Un reportage signé Susanna Kubik, qui est à retrouver sur le site de France Musique à la rubrique Éducation. Voilà qui m'inspire une petite pensée. Ne devrait-on pas demander à tous nos candidats et responsables politiques d'avoir obligatoirement dans leur CV une formation musicale? Peut-être que ça améliorerait les choses, allez savoir. Vous retrouvez donc ce reportage de Susanna Kubik dans la rubrique Éducation. Vous trouverez aussi tous les conseils destinés aux jeunes musiciens pendant les vacances. Alors pas de panique, parfois c'est bien aussi pour les enfants de ne pas savoir quoi faire. Pas d'idée.
Oh.
Les enfants de la maîtrise de Radio France, c'était la chanson « Pas d'idée » de Julien Joubert, avec Julien Joubert au piano et la maîtrise sous la direction de Marie-Noëlle Merten. Merci d'être avec nous sur France Musique, il est 8h16. Cet humour caractéristique dans sa musique. C'est évidemment Mozart, le rondo final de son sixième quatuor en si bémol majeur. C'est un extrait des quatuors milanais de Mozart, interprété par le quatuor Modigliani. 8h20, il est l'heure de faire le point sur l'affiche du jour, l'affiche des concerts de France Musique. Je vous le rappelle, deux concerts tous les jours pendant tout l'été. À 14h d'abord, un concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung Moon Chung, avec au programme la symphonie inachevée de Schubert et le concerto pour piano de Schumann, interprété par Yun-Chan Lin. Et puis à 20h, le Dixit Dominus de Handel, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón, avec le chœur de chambre de Namur et la Capella Mediterranea. C'est un concert donné au festival de musique de Namur, dont voici un extrait. Thank you. Le début du Dixit Dominus de Händel par le chœur de chambre de Namur, la Capella La Méditerranée, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón, un concert à retrouver dans son intégralité ce soir sur France Musique à 20h. 8h25 comme tous les matins de la semaine, c'est l'heure de Maxi Classique de Max Dosolme. Et cette semaine, on réentend les meilleurs moments sous une thématique classique et jazz de Maxi Classique. Elle s'est éteinte le 21 avril 2003 à l'âge de 70 ans. Elle s'appelait Eunice Kathleen Wayman, mais on la connaît mieux sous le nom de Nina Simone. Écoutons son jeu parfois baroque et l'histoire d'un rêve brisé, celui pour Nina Simone d'être la première pianiste classique noire.
Les journées sont longues dans la villa de Carry-le-Rouet. C'est dans cette maison discrète du sud de la France que Nina Simone attend la fin, rongée par un cancer qui progresse rapidement en ce printemps 2003. Il y a quelques semaines de cela, le passé s'est présenté à elle. L'Institut Curtis lui a décerné un diplôme honorifique. Les souvenirs reviennent avec précision. Elle se remémore ses 19 ans, ce jour où son rêve de devenir la première pianiste noire américaine s'est brisé. C'est un petit bâtiment néoclassique écrasé par les tours de Philadelphie. Ce 7 avril 1951, Nina Simone se tient devant The Curtis Institute of Music. C'est dans ce prestigieux conservatoire qu'elle veut devenir ce qu'elle a toujours voulu être. Elle pense à sa mère, qui l'a mise au piano dès ses 3 ans, à sa professeure, Miss Maisie, et les heures passées auprès d'elle dans les quartiers blancs qu'elle quittait le soir. Elle se remémore surtout les derniers conseils de ses professeurs de la Juilliard School. Depuis un an, elle prépare avec eux le concours d'entrée de l'Institut Curtis. Alors, quand elle apprend que le jury ne l'a pas retenue, le monde s'écroule. Hush now. Don't explain. There ain't nothing to gain. I'm glad that you're back. Peu importe que l'Institut ait déjà accepté des élèves noirs avant elle, peu importe que sur les 75 candidats, seuls 3 seront finalement retenus. Ce refus de l'école a toujours été considéré par Nina Simone et sa famille comme un geste raciste. Bien qu'un des professeurs de l'Institut, Vladimir Sokalov, lui donne quelques cours en dehors de l'école, Nina Simone tourne finalement le dos au classique. Elle se met à chanter et à jouer un tout autre répertoire dans des clubs nocturnes. Eunice Wayman prend le nom de Nina Simone et le devient véritablement à partir de ce jour-là. Nina Simone ne sera jamais la concertiste qu'elle aurait rêvé être, mais son jeu est envoûté par le classique. Son phrasé se souvient des maîtres du baroque et de Bach, son compositeur favori, lorsqu'après un séjour au Liberia, elle remonte sur scène en 1976 à Montreux. Jeu perlé, des marches harmoniques et des trilles caractéristiques du clavier baroque que l'on trouve aussi dans le passage central de Love Me or Leave Me en 1966. Une parenthèse comme une fugue, sans parole et libératrice.
C'était Maxi Classique de Max Dosolme, une série à retrouver sur le site internet de France Musique et via l'appli Radio France. Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h30.
France Musique, c'est l'été.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour, Samuel Engebart. Bonjour.
Bonjour Clément.
Vous êtes altiste, spécialiste de violon baroque et en particulier de viola da Spalla. Vous avez fondé en 2020 avec le claveciniste Ronan Khalil l'ensemble Acte 6, un label discographique, Octave, et vous lancez cet été une tournée à vélo, Passerelle dans les Hauts-de-France. Ce sera du 10 au 20 juillet. Vous vouliez ajouter quelque chose à cette présentation ?
Non.
J'ai oublié quelque chose ?
Non,
vous avez tout, il y a tout. Alors parlez-nous un petit peu de ce projet et puis de son parcours, d'abord, de cette tournée.
Alors pour nous, c'est une vraie première. Une tournée un peu expérimentale. Alors évidemment, on s'inspire de modèles précédents, puisque quand même depuis le Covid, on voit fleurir tout un tas d'initiatives vertes à travers la France, notamment avec l'ensemble correspondance, les forces majeures, etc. Donc on part pas de nulle part, mais en tout cas, nous, on avait aussi envie de mettre notre petite pierre à l'édifice. On sait tout de suite, quand on a créé ça, Acte 6 en 2020, on s'est équipé d'une charte écologique, et ça nous tenait vraiment à cœur de partir sur les routes à vélo.
Alors, plus concrètement, vous serez où, quand, avec qui, quel musicien, quel programme ?
Eh ben, on part à 8 musiciens, avec une chanteuse, une talent de demain, Axel Saint-Cyrel, qui vient de finir le Conservatoire de Paris, avec tout un tas de combinaisons d'instruments un peu éclectiques, notamment un accordéon, de l'alto, etc. Et on va parcourir toute l'Oise, d'est en ouest. On va partir de Noyon, le théâtre du Chevalet, qui est une scène conventionnée, qui va nous accueillir pour les répétitions, petits concerts, et ensuite on va parcourir à peu près 300 km sur les routes cyclistes de l'Oise, la Scandibérique et la
Paris-Londres.
C'est ça exactement, donc deux routes cyclistes très très évidemment empruntées et connues, et on va aller visiter aussi tout un tas de lieux de emblématique de l'Oise, de lieux de patrimoine, mais aussi on va faire aussi tout un tas de petites balades en itinérance. Voilà, en fait l'idée centrale, c'est l'itinérance et l'écologie.
Mais attendez, c'est pas un peu fatigant ça pour des musiciens, parce que il faut pédaler toute la journée, puis après il faut répéter, puis essayer de se concentrer pour jouer sur scène le soir.
Tout à fait, mais c'est un peu le challenge là qu'on a, c'est de partir le matin à vélo, faire les 2-3 heures de vélo qu'on a à faire, se changer, se doucher, répéter et faire le concert, et ensuite on espère un peu faire la fête quand même aussi un peu.
Et pour le transport des instruments, c'est à vélo aussi
Alors non, c'est toute la question ça soulève tout un tas de questions évidemment, les tournées vertes, parce que évidemment on essaie, l'idée c'est aussi de réduire notre empreinte carbone et de penser autrement le spectacle vivant, autrement les modes de production, et donc non, on va pas prendre nos instruments avec nous sur les vélos, donc c'est a priori un vélo cargo qui va nous transporter tout ça, et on va pas pouvoir non plus, ça c'est un peu les limites encore de notre expérimentation, c'est qu'on va pas pouvoir se passer quand même d'un camion thermique pour transporter le gros matériel de régie, notamment les praticables, les pupitres, etc. Donc voilà, il y a encore du chemin à faire, mais pour une première, je trouve ça pas mal.
C'est déjà pas mal.
Oh!
Un extrait de l'Orfeo d'Antonio Sartorio, c'était un air du premier acte et même un duo entre Orphée et Eurydice, Cara e Amabile, avec les voix de Jenny Lefebvre et Lucille Richardot. L'ensemble, acte 6, que vous dirigez, Samuel Engebart. Alors, le programme musical des concerts d'acte 6 lors de cette tournée, Passerelle, un mélange.
On en fait un peu notre identité. Traverser les siècles, traverser les musiques, les mélanger, les interroger, les mettre en regard. Et donc, du coup, on va un peu... c'est un programme autour de l'ouverture. Voilà, ça, c'est notre signature. Donc, on va passer du baroque français à de la musique 20e polonaise, mais aussi la chanson française avec Barbara, par exemple, ou la mélodie française avec Poulenc. Voilà, donc on mixe un peu tout ça comme un petit ruban et ça crée quelque chose voilà, d'assez unique. Et on voulait partir avec cette identité-là, ouais.
Ça, c'est la nouvelle identité d'Acte 6, parce que quand vous avez fondé l'ensemble, au départ avec le claveciniste Ronan Khalil, on avait le sentiment que ça allait être un nouvel ensemble vraiment spécialisé, musique ancienne, enfin musique baroque plutôt.
Oui, alors tout à fait, on a cet ADN baroque parce qu'on est des baroqueux, mais moi j'ai d'abord, avant de faire de la musique ancienne, j'ai d'abord aussi fait des études d'alto moderne au conservatoire à Lyon, et j'avais à cœur vraiment de pouvoir mélanger, et je crois qu'il y a vraiment tout un tas de passerelles, c'est comme ça que d'ailleurs ça s'appelle le programme,
cette tournée à vélo,
tout un tas de passerelles, et entre toutes ces musiques, et j'avais vraiment envie de pouvoir développer toutes ces choses. Et d'ailleurs, en vrai, mes programmes s'articulent toujours, enfin, sont toujours inspirés de la littérature. Et là, on va passer notamment à Clermont-de-Loise, dans là où notamment Roger Martin Dugard a vécu, à une maison. On va dormir dans sa maison, donc c'est c'est très inspirant, ouais.
Ah ouais, très émouvant. Ce sera le 15 juillet dans le cadre de la tournée Passerelle. Est-ce que les spectateurs peuvent vous suivre à vélo?
Ah, tout à fait. C'est vraiment l'idée. On a pris contact. En fait, c'est l'idée aussi de pouvoir tisser des liens avec tous les acteurs du territoire, de pouvoir les intégrer, le partage. Et il y aura effectivement sur certaines étapes tout un tas d'associations cyclistes qui vont nous accompagner.
Donc là, c'est une première tournée, je rappelle, Passerelle, du 10 au 15 juillet, jusqu'au 17,
jusqu'au
18, 20. 19, 20 ouais. juillet. Mais l'idée, ce serait de pérenniser ce festival, d'installer une sorte de veille tout au long de l'année.
Exactement. C'est
avec
l'idée,
l'ensemble
parce que je pense qu'encore plus, c'est encore plus vrai aujourd'hui que hier, notamment avec ce qui se passe, on sait, en ce moment, c'est presque un acte militant aussi d'apporter la culture dans tous ces endroits très ruraux, tous ces endroits un peu où la musique, en tout cas de répertoire, n'est pas représentée ou pas assez. Et effectivement, notre idée, c'est d'aller au plus proche du public pour y apporter la musique de répertoire et une veille sur l'année, donc pas seulement, parce que notre travail n'est pas seulement sur cette tournée, hein, évidemment, elle est aussi tout au long de l'année, grâce au moment musical de Gerberoy, un festival dont on a la direction artistique au mois de juin, mais aussi voilà, avec tout un tas d'acteurs du territoire sur... tout au long de l'année.
Et puis repenser les formes de concerts classiques, le rapport classique entre public, scène, public, musicien.
Je crois, c'est-à-dire que à partir du moment où on va dans des endroits atypiques, qu'on a cette marge d'expérimentation, je pense qu'on peut aussi se permettre d'expérimenter tout un tas de nouvelles formes, et c'est ça qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que Acte 6 le fait, on le fait aussi chez Octave Records dans des programmes originaux, et c'est tout notre travail. Et je pense que là, vraiment, on touche un endroit où on va pouvoir aussi réagir en fonction de comment l'ambiance, l'espace dans lequel on le fait, ça sera toujours différent, oui, ça c'est sûr.
Vous êtes prêt à voyager à vélo, un petit peu comme le faisaient les compositeurs de l'Europe du XVIIe et du XVIIIe siècle. Notamment, je pense aux compositeurs qui sont sur le disque Hambourg 1700 de l'ensemble. C'est le premier disque que vous avez enregistré sous votre label Octave, où on peut entendre cette superbe sonate de Johann Teile, un nom à consonance allemande, mais dont la musique semble parée de tous les atours vénitiens. Bah oui, ils étaient tous un peu marqués par l'Italie baroque à l'époque, dans toute l'Europe, via Schütz notamment. large partie de cette sonata duplex à trois voix de Johann Theiler, avec vous, Samuel Engelbart, à la viola da Spalla, et avec les musiciens de votre ensemble, Acte 6. Alors, au-delà de la tournée passerelle, on l'a bien compris tout à l'heure, votre ensemble est un ensemble engagé dans une démarche de transition écologique, en partenariat avec l'association Arviva. C'est quoi un ensemble vert?
Un ensemble vert, c'est un ensemble en tout cas qui essaie de faire des efforts sur les postes coûteux en énergie fossile. C'est notamment essayer de rationaliser par exemple des tournées à l'étranger. Alors on n'en est pas encore là parce qu'on est vraiment tout jeune, de devoir voyager aux États-Unis pour faire des concerts, mais je crois que en tout cas sur notre charte écologique on a vraiment inscrit dans le marbre qu'il fallait pas partir pour aller faire one shot un concert unique à l'autre bout du monde, à Los Angeles ou Singapour, comme on avait d'ailleurs l'habitude de faire avant le Covid. En réalité, c'est vrai que depuis le Covid ça s'est un tout petit peu ralenti. Je pense qu'aussi il y a une prise de conscience générale de la part du secteur. Et Arviva, effectivement, s'est créé à ce moment-là et nous accompagne dans ces démarches, dans cette transition. Et voilà, c'était un exemple comme d'autres.
Mais il y a d'autres éléments à changer dans le quotidien de la vie des musiciens ou dans la manière d'organiser les concerts, autre que les voyages. C'est-à-dire que l'écologie ne porte que sur les voyages.
C'est pas que sur les... Évidemment, préférer l'avion, voilà. Mais c'est par exemple aussi, là, on a pensé...
Préférer le vélo. Oui.
Non, mais c'est aussi, par exemple, là, c'est tout un tas de choses à penser sur, par exemple, le plastique dans les repas, dans les caterings des festivals, dans les caterings des salles. Bon, je pense qu'il y a des efforts aussi faits par les diffuseurs et les théâtres. C'est également surtout le matériel. On est plutôt loué qu'acheté, plutôt emprunté que dépenser de nouvelles matières. Par exemple, les praticables, on emprunte tout à la Maladrerie Saint-Lazare, qui est un diffuseur du territoire, qui nous prête gentiment. Mais je pense qu'il faut favoriser ce genre d'échange plutôt que de devoir encore acheter du nouveau matériel dont on se sert parfois qu'une ou deux fois par an.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait carrément revoir toute l'activité musicale mondiale en fonction de la transition écologique? Parce que on sait bien que, je prends un exemple au hasard, l'opéra, mais on pourrait parler aussi des grands concerts symphoniques. Si on veut pouvoir entendre, l'Orchestre Philharmonique de Berlin aux États-Unis, il va falloir mettre tout cet orchestre dans un avion et puis aussi tous les instruments.
C'est toujours la question. Je pense que la mobilité reste quand même un vrai... il faut se déplacer. Je veux dire, on va pas rester en autarcie absolue à chaque fois sur le territoire français, sinon ce serait se reclure dans le... L'Orchestre de Berlin, effectivement, ou d'autres orchestres européens viennent souvent à Paris, notamment la Philharmonie. C'est plus pour se dire que peut-être que si on part loin, ou si des orchestres ou des ensembles américains viennent en Europe, c'est peut-être privilégier une tournée plus longue, plus ralentie. Et c'est vrai qu'à l'avenir, pour nous, même sur de...
Avec des voyages en train entre...
Avec des voyages en train. Voilà, après l'avion, on peut pas s'économiser. Quoique, en fait, nous, on a cette idée un peu folle de faire le transatlantique en bateau, voir un peu ce que ça donne aussi sur le papier, parce qu'il y a un calcul réel à faire aussi sur ces déplacements. Peut-être qu'en fait, prendre un paquebot, c'est pas beaucoup plus intéressant que de prendre l'avion. Mais c'est plutôt la rationalité et puis se dire que sur des temps plus longs, l'année prochaine, par exemple, on va faire une tournée, on va faire à la fois des concerts, mais on va rester dans les villes pour faire des actions culturelles. Donc, un ralentissement général, sans doute, c'est pas possible tout le temps. Je pense que c'est aussi une adaptation au fur et à mesure du temps.
L'amour de la nature est vraiment au fondement de l'ensemble Acte 6, et on peut le ressentir d'ailleurs sur le tout dernier disque qui vient de sortir, qui s'appelle Un lieu à soi, de la musique anglaise, et on sait que les Anglais chantent, décrivent beaucoup la nature dans leur musique. Voici un premier extrait.
Stop.
Winter, le troisième des trois poèmes irlandais, trois anciens poèmes irlandais. Dina Boyle, avec la voix de Lucille Richardot, Hélène Dessin à l'alto et Clara Isambert-Jarry à la harpe. Cet extrait donc de ce nouveau coffret de musique anglaise, Un lieu à soi, c'est une référence à Virginia Woolf.
Tout à fait. Ce manifeste qu'elle a écrit en 1929 autour de de l'espace que doivent se créer les femmes pour créer, pour écrire, pour composer, etc. Et effectivement, nous, on avait envie de pouvoir parler des compositrices, de créer cet espace, en tout cas de création, de musique.
Alors, ce qui est intéressant sur ce disque, parce qu'effectivement, on peut dire que c'est un disque féministe, mais pas exclusif, parce qu'au contraire de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire des disques 100% compositrices, vous, au contraire, vous avez replacé de nombreuses compositrices britanniques, totalement inconnues, je dois dire, pour certaines quand même déjà reconnues, heureusement, avec le temps, mais à l'égal des hommes dans l'histoire de la musique, parce que c'est un coffret de deux disques où, en fait, elles apparaissent au milieu des autres compositeurs britanniques, connus et méconnus d'ailleurs.
Oui,
aussi.
Alors on se balade effectivement sur 4 sets de musique. Il y avait une réalité aussi, si on voulait partir du 17e siècle et qu'on voulait faire aussi de la musique ancienne, autant vous dire que en 1600-1700, il y avait très peu de compositrices. Et encore, cette Marie Dering, elle a été publiée seulement parce que son père était l'éditeur d'autres compositeurs et qu'il a généreusement proposé une édition de ses partitions. Mais oui, effectivement, c'est une vraie idée de la parité. Alors, pas forcément post-féministe, c'est pas l'idée. C'est simplement de dire que, en fait, c'est de replacer simplement les femmes dans une réalité. Elles ont tellement été invisibilisées qu'il fallait leur redonner leur place, mais aussi dans une histoire totalement logique avec aussi des hommes qui font de la musique.
Et c'est intéressant parce que justement, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'écriture musicale féminine en soi. C'est un peu l'idée qu'on pourrait aussi avoir. En fait, on a des compositrices qui ont exploité, comme leurs contemporains compositeurs, les mêmes thèmes, la nature, beaucoup pour l'Angleterre, les mêmes questionnements musicaux, les mêmes veines expressives.
Alors tout à fait, elles sont traversées par les mêmes thèmes, comme vous dites, la nature, etc. Après, il y a une vraie, c'est une vraie prouesse, notamment pour Ethel Smith, qui est une contemporaine de Frank Bridge ou de Virginia Woolf, d'être la première femme, par exemple, à écrire un opéra, des symphonies. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, quand même, il faut se dire, au moment où les suffragettes arrivent, c'est d'une difficulté de pouvoir composer par rapport aux hommes. Elles n'ont pas forcément accès aux écoles. Déjà de musique, elles ne peuvent, enfin, je veux dire, tout ça arrive en même temps, mais à ce moment-là, c'est vraiment prodigieux, quoi, de sa part, ça c'est sûr.
La nature omniprésente dans ce disque de musique anglaise, une musique assez mélancolique, hein, de manière générale, la musique anglaise, qu'elle soit écrite par des hommes ou des femmes, depuis le 16e siècle.
Hein. Toujours, ça a été une vraie difficulté pour nous de balancer entre de la mélancolie permanente et puis des choses un peu plus vivantes. Dans ce disque.
On va se quitter avec un autre extrait de ce disque. Les trois voix des trois femmes qui sont sur l'enregistrement. Maïlys de Villoutray, Anaïs Bertrand et Lucille Richardot dans ce superbe Ave Maria de Rebecca Clarke. Le coffret s'appelle Un lieu à soi. C'est l'ensemble acte 6. C'est paru sous votre label Octave. Et puis je rappelle, la tournée à vélo, c'est du 10 au 20 juillet prochain dans l'Oise. Merci Samuel Engelbart.
Merci Clément.
la soprano Maëlys de Villoutrey, la mezzo-soprano Anaïs Bertrand et l'alto Lucille Richardot, trois voix pour chanter l'Ave Maria de Rebecca Clark. Musique Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. La réponse à la question du jour. Alors, quelle était l'autre spécialité du chevalier de Saint-Georges en dehors de la musique? Il était escrimeur, il était même tellement doué qu'il avait été admis en 1761, à 14 ans, dans le corps des gendarmes de la garde du roi. Et puis plus tard, au moment de la Révolution française, il est finalement passé de l'autre côté de la barricade, enrôlé dans la garde nationale de Lille. Bravo à nos trois gagnants. Je ne sais pas qui c'est, mais on vous enverra un petit mail pour vous dire que vous avez gagné. En tout cas, bravo à vous. Dans quelques instants, les sagas musicales continuent. Cette semaine, Lionel Esparza vous raconte Toscanini et la force d'un destin. Demain, on recevra la pianiste de jazz Masha Garibian en concert au Parc Floral à Paris dans le cadre du Paris Jazz Festival. Un grand merci à toute l'équipe du jour, à la préparation Flora Sternadel, Léa Gramusset, Juliette Porcher et Lucas Réal. Margot Page signe la réalisation de cette émission. À la technique ce matin, Stéphane Poitvin et YouTube Diego Aclopez avec dans son ombre Benjamin Orgeret. Je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute de France Musique et je vous donne rendez-vous demain dès 7h30.
À réécouter sur francemusique.fr.